Merci de vous prêter au jeu les musiciens du groupe Menalua. C'est comme ça qu'on le prononce.
Alors, bravo déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écorchent le nom de notre groupe. C'est devenu un peu une blague.
Ah oui.
On a eu Manuela, Mena, Melanua. Enfin, voilà, on est en train de compiler les noms, parce que ça devient un peu une blague, comme je disais. Mais c'est ça. Si on veut chipoter, c'est Menalua, parce que ça vient du brésilien lune. Et donc, c'est plus ça que le U français.
D'accord. Donc, lune en brésilien, enfin en portugais, du coup.
Ouais.
C'est
Lua.
Lua et Mena.
Alors là, c'est un peu une invention. On s'est inspiré d'une chanson qui nous relie et qu'on aime beaucoup tous les deux, qui s'appelle Menina da Lua, qui veut dire fille de la lune. Et on trouvait l'expression très poétique, en plus du fait qu'on adore cette chanson. Et donc, c'est une contraction qu'on a un peu inventée, qui aussi peut être interprétée comme un prénom. Un prénom rare. J'ai vu que ça existait quelque part dans le monde, à quelques endroits. Mmh. Voilà. Avec une forte consonance brésilienne qui fait écho à l'influence de cette musique dans nos compositions.
D'accord. Ben, on n'a qu'à entrer par là, justement. Puisque là, on a la chance d'avoir avec nous deux membres du groupe. Normalement, vous êtes en quartet, c'est ça ?
C'est ça.
Donc, vous êtes là tous les deux avec nous. Et c'est vous, me disiez, qui aviez initié le groupe, qui avait eu l'idée. C'est né d'où, de votre rencontre et puis l'idée du groupe?
En fait, c'est parti de la rencontre de Mathilde et moi au Centre des Musiques Didier Locoud, et l'école de jazz à Paris, en banlieue parisienne. Et on a d'abord monté un duo qui s'appelle Azulera, avec lequel on joue de temps en temps encore. Et en fait, c'est venu, ça a été initié par le guitariste Pierre Perchaud, qui est donc prof dans cette école-là, et qui a également un festival qui s'appelle Respire Jazz, et qui nous a demandé de venir en quartet, de monter un quartet, une version étendue un peu de notre duo pour ce festival. Et à partir de là, on a plutôt pris des compos de chacun des musiciens, musiciennes. Et après ça, ça a été le premier concert en quartet vraiment, et puis après on a commencé à composer en ayant en tête vraiment une esthétique, une idée. Enfin voilà, le quartet est né en fait à ce moment-là.
Et vous êtes rencontrés à l'école Didier Lockwood ?
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Tous les deux.
On s'est rendu compte qu'on avait l'amour du jazz en commun, mais aussi la musique brésilienne, qui a un domaine largement aussi infini, bien au-delà que ce qu'on pourrait croire. Et suite à ça, on a commencé à faire des sessions tous les deux, et voilà, ça nous a donné envie de jouer ensemble. Puis il y a eu cette sorte de hasard où Pierre Perchaud nous a donné une carte blanche finalement pour ce festival. Et ensuite, c'est allé assez lentement. Je suis assez contente avec du recul de ne pas être rentrée dans une sorte de précipitation pour forcément tout de suite monter un répertoire. Je pense qu'il y a une année qui s'est écoulée un peu de maturation, où chacun menait un peu sa vie, et puis il y avait nos concerts en duo. Et puis c'est une année après que vraiment on a établi une première mouture du répertoire, et puis voilà. On s'est laissé le temps.
Et vous avez, du coup, sur cette proposition, si j'ai bien compris, de ce prof de guitare, monté un quartet. Est-ce que c'est le même quartet qui est conservé? Les musiciens ont tourné? Est-ce que les instruments ne sont pas les mêmes?
C'est la même instrumentation. Il y avait l'idée de rester sur quelque chose d'assez acoustique, donc une contrebasse et batterie. Le contrebassiste est le même, il s'appelle Mathis Regnault et il vient également du CMDL. Et ensuite, on a changé de batteur deux fois pour des raisons logistiques. Enfin, voilà, les rencontres, c'était super les deux premiers formats. Mais là, aujourd'hui, on est avec Basile Guéguin, qui lui
est breton.
Tout
il
comme
vient
Romain.
On s'est rencontré au Concertoir de Rennes avec le batteur. Il est arrivé à Paris il y a 2 ans, à peu près 1 an et demi. Et donc, ça a correspondu à un premier moment où on l'a appelé pour rejoindre le quartet. Ouais.
Ok. Et du coup, on peut peut-être vous présenter, parce que là, on a évoqué les deux autres musiciens, mais peut-être que vous pouvez vous présenter un peu vos itinéraires. Tu disais tout à l'heure, on peut se tutoyer, ça vous va?
Tout à fait.
Ça
ouais.
Tu disais tout à l'heure, Mathilde, que vous aviez été réunis par le jazz, donc ça veut dire que c'était pas forcément votre terrain de départ, peut-être?
Tu veux commencer?
Non, vas-y, commence.
Okay. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai fait... j'ai essayé d'aller vite, mais en gros, j'ai fait de la musique toute petite, dès l'éveil musical, on va dire, de 3 à 14 ans. J'étais au taquet, comme on dit. J'ai fait de la batterie, du piano, du chant, plutôt classique. J'étais trop jeune pour appeler ça du chant lyrique, mais au fond, ça préparait à ça. D'abord en école de musique, puis au conservatoire de Chambéry, parce que je suis originaire de Chambéry. Et ensuite, voilà, la vie a fait que j'ai eu une toute autre trajectoire. J'ai fait des études en sciences politiques, j'ai travaillé dans le social. Donc j'ai eu 10 ans de pause extrême. J'ai vraiment plus fait de musique du tout. J'en écoutais énormément, mais j'ai plus du tout pratiqué. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est que c'est en faisant des stages à Cré que... Enfin voilà, je m'étais blessée, je pouvais plus aller randonner ou partir par Mons et par Vaud, et donc je me suis offert un stage de jazz à Cré, 3 années de suite, et c'est vraiment ici que j'ai eu mon déclic, que j'ai eu des encouragements, que j'ai rencontré des gens qui m'en ont fait rencontrer d'autres, et voilà. Et donc ensuite j'ai décidé de faire cette école de jazz, enfin de candidater à l'école Didier Lockwood. Et donc oui, le jazz nous a réunis. Après, on se rend compte quand on discute qu'on a plein de références communes qui datent de bien plus longtemps. Mais voilà, ouais, c'est vraiment par le jazz qu'on s'est rencontrés.
Ouais. Moi, j'ai un parcours un peu différent. J'ai vraiment fait de la musique depuis tout petit. Mon papa est pianiste de jazz. Il est d'ailleurs accompagnateur au festival aussi. Et donc, j'étais vraiment bercé depuis tout petit. J'ai eu ma première guitare à mes 3 ans, 4 ans. J'ai pris des cours très tôt au conservatoire. Et après, j'ai jamais arrêté. En fait, après le bac, j'ai juste passé un bac en filière générale. Et puis après, j'ai enchaîné. Je suis devenu intermittent. Et puis, et voilà, la musique m'a jamais quitté. Et notamment le jazz. J'ai un peu toujours fait du jazz quand même. Et guitare classique en parallèle. J'ai commencé par le classique. Et voilà. Depuis un moment quand même, c'est jazz, musique brésilienne. Jazz au sens très très large du mot jazz, parce que ça ne veut plus dire grand chose. Enfin, en fait, maintenant, il y a énormément d'esthétiques qui sont raccordées de près ou de loin à ce style de jazz. En gros, musique avec improvisation, quoi.
Ok, ben justement, enchaînons là-dessus. Le jazz, univers très varié, qui s'élargit toujours plus. Moi, j'ai quand même souvent tendance à dire que c'est, pour moi, la musique du XXe siècle. Enfin, le style musical du XXe siècle. Et de, finalement, aussi, qui a accompagné une forme de mondialisation culturelle et médiatique. L'air de rien. Vos influences respectives, peut-être qu'on peut commencer par toi cette fois.
Ouais, moi, il y a un guitariste que j'ai énormément écouté. C'est un peu lui qui m'a amené vers le jazz à l'époque où, quand j'étais vraiment plus petit, j'étais plutôt rock blues. Et le premier guitariste de jazz que j'écoutais, c'est Pat Metheny, un guitariste américain, je pense que assez connu quand même. Et je me suis mis à repiquer vraiment toutes les mélodies, tous les solos. J'ai vraiment fait une immersion absolue. C'était devenu une drogue presque de jouer tous ces morceaux. Voilà, c'est ça, la Metheny. Et donc, j'ai fait un peu un blocage quand même sur lui pendant plusieurs années. Et après, j'ai quand même pas mal changé dans les autres guitaristes. Il y a notamment des guitaristes brésiliens, Chico Pinheiro, Ginga. Il y a eu également d'autres instrumentistes, notamment le pianiste Brad Meldo que j'ai énormément écouté. Et puis plus récemment, dans un autre style un petit peu, le batteur Louis Cole, qui fait partie du groupe Nowhere, qui, je trouve que sa musique est très... me parle vraiment beaucoup, et tout l'univers, enfin, il y a vraiment un univers que j'adore. Donc voilà, pour les influences en résumé.
Qu'est-ce qui t'a amené vers la musique brésilienne, toi ?
Eh bah, c'est mon papa, parce qu'il écoutait ça depuis très très longtemps, depuis tout petit, et on a commencé à en jouer ensemble. On faisait des bossas, j'avais vraiment 7-8 ans, et il m'avait appris la rythmique à la guitare, et voilà, donc moi j'ai vraiment... c'est pas trop par ma propre curiosité que j'ai été amené à cette musique-là.
Ouais, ouais, bien sûr. Est-ce qu'il t'a dit à l'époque que c'était Henri Salvador qui avait créé la bossa nova, ou il n'a pas propagé cette rumeur plus...
Non, il n'a pas propagé cette rumeur. Okay. Non, non, non.
On lui en saura gré.
Non, il avait une autre approche de la musique brésilienne. Enfin, également, il adore Henri Salvador, mais en tout cas, c'était...
Ouais. C'est plutôt pour la boutade, hein, parce que j'ai rien contre Henri Salvador, mais il ne faut pas exagérer.
Oui,
plus.
Voilà.
La France
exactement.
N'a pas tout créé. Et Mathilde, de ton côté, tes influences et le chemin qui t'a amené vers la musique brésilienne?
Alors, la musique brésilienne en particulier, c'est une question qu'on me pose. Dès qu'on me la pose, j'ai du mal à répondre parce que je ne me souviens pas. Je me suis retrouvée accidentellement à écouter cette musique. Je ne sais pas pourquoi, mes parents n'écoutent pas du tout ça. Mais voilà, ça m'a accrochée directement. Pour en dire deux mots, je trouve vraiment que dans la musique brésilienne, c'est une musique très complète. Il y a quelque chose d'extrêmement bien senti dans le rapport entre la mélodie et l'harmonie. Il y a la prégnance du rythme, il y a aussi quelque chose de très joyeux et en même temps qui peut être très mélancolique, notamment dans les paroles. Et donc on peut passer par des milliards d'émotions. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un terrain de jeu infini. Donc je me suis rendu compte progressivement de ça. Je peux pas dater, je me souviens plus en fait, vraiment. J'ai un trou noir. Et sur mes influences plus générales, j'ai beaucoup écouté ce que mes parents ne sont pas musiciens, mais par contre, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de CD à la maison. Et donc, je pense que j'ai été imprégnée du jazz entre guillemets grand public, qui en tout cas passait sur TSF Jazz et sans être un jazz de niche. Donc, fatalement, j'ai écouté Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, enfin vraiment les grands disques de jazz vocal, Chet Baker, etc. J'ai aussi beaucoup écouté le chant lyrique. Cécilia Bartoli, Patricia Petitbon, Nathalie Dessay. Moi, c'était mes repiquages à moi, c'était ceux-là. Voilà. Et ensuite, plus actuellement, mes influences, je les situe. J'écoute beaucoup Gretchen Parlato, c'est vraiment un grand modèle pour moi. Je suis très inspirée par son minimalisme et le fait qu'elle arrive à vraiment transmettre des émotions sans bouger, juste avec une espèce d'aura incroyable. J'adore Esperanza Spalding, là je cite des vocalistes, mais, et puis Björk, grande fan de Björk. Et puis sinon, dans nos points communs, voilà, j'adore Brad Meldo aussi, on écoute souvent, on se retrouve à écouter les mêmes disques de Brad Meldo. Voilà, puis la folk, ça c'est quelque chose, pour le coup, c'est pas trop un point commun qu'on a tous les deux, mais moi j'ai beaucoup écouté de folk. Pour l'instant, je sais pas si ça transpire dans nos compos, je crois pas, mais grande influence aussi.
Folk états-unien, enfin...
Ouais, Simon & Garfunkel, ouais. Ou The Fleet Foxes, qui est un groupe plus récent que j'ai énormément écouté, vraiment énormément. Voilà.
Oui, et puis qui a un style qui s'actualise toujours, en fait.
Enfin, oui, c'est assez actuel. Il y a vraiment une scène hyper active et ouais, qui sent pas du tout le vieux, quoi, effectivement. Je trouve que c'est une musique du moment aussi.
Ouais, ben, en fait, finalement, un peu comme le jazz, c'est quand même des styles musicaux qui viennent du même continent, un peu monde, que sont les États-Unis, et qui continuent d'être actualisés, et c'est assez génial. Moi, je ne suis pas un grand fan non plus de folk, mais j'en écoute aussi, et c'est intéressant de voir comment ça évolue tout en gardant une base, qui est peut-être moins le cas pour le jazz. Enfin, je sais qu'il y a des grands débats avec Wynton Marsalis, qui se veut un peu le tenant du vrai jazz, face à un jazz qui serait plus du jazz. Bon, moi, je rentre jamais trop dans ces discussions-là, mais...
Oui, est-ce que ce débat est bien nécessaire, enfin,
non. Non, effectivement, mais c'est vrai qu'on aime bien catégoriser.
Oui,
ça fait belle lurette que j'ai oublié d'essayer de mettre dans des cases tous les styles musicaux que j'appréciais.
Ouais.
Pour revenir à Menalua, comment vous travaillez ensemble? Parce que du coup, les compositions là qu'on va écouter, qu'on va entendre aujourd'hui, elles sont de vous deux ou elles sont aussi des autres musiciens?
Non, elles sont coécrites par nous deux. Après, l'arrangement un peu final, Basile et Mathis vont un peu trouver, notamment à la batterie, trouver sa partie un peu. Alors, ça arrive que soit on lui donne des directions vraiment très précises, parfois un peu moins. On lui dit qu'est-ce que t'entends là-dessus sur cette harmonie-là, cette mélodie-là. Et pour le coup, à la contrebasse, c'est un peu plus écrit, on va dire. Quand on écrit les harmonies tous les deux, voilà, on en a mis une partition, puis après... Il va plutôt lire en tout cas la partition d'un premier temps, et après évidemment c'est du jazz, donc il y a une énorme part d'interprétation dans tout ça, et une partition au bout d'un moment veut plus dire grand chose, enfin entre ce qu'on lit et ce qu'on va jouer il y a quand même un énorme gap, et donc du coup les compositions on co-compose tous les deux la plupart des morceaux, enfin je veux dire on a une part plus ou moins
importante en fonction des morceaux. Il y a des morceaux qui ont été qui surgissent vraiment du cerveau de Romain, et puis ensuite il m'amène quelque chose de plus ou moins fini. La même chose va de pair dans l'autre sens. Du coup, enfin moi j'amène parfois des choses que j'ai commencé à élaborer au piano avec un début de basse, etc. Il est vrai que comme Romain passe son temps sur un instrument harmonique, c'est quand même plus souvent lui qui finalise l'harmonie des morceaux, etc. Mais ça dépend lesquels. Il y a des morceaux où c'est moins le cas, enfin voilà. Et du coup, tout se passe dans notre tamis commun. Par contre, il y a des compositions que moi j'avais amenées, par exemple, et qui peut-être collaient pas tellement à ce groupe. On s'en rend compte en essayant, et que je garde pour d'autres projets. Et c'est pas trop arrivé dans ton sens, mais voilà, il y a vraiment l'idée qu'on, c'est pas du tout question de valider ou de mettre une note à une compo, mais juste voilà de s'accorder qu'elle nous correspond bien à tous les deux. Et plus rarement, il arrive, c'est précieux et rare, qu'on compose en direct une compo vraiment, qui vraiment, ça devient difficile de dire à qui appartient l'idée. C'est le cas de, je dirais, deux compositions sur l'album, où vraiment, c'est assez magique parce que c'est vraiment rare.
On a tiré le fil tous les deux en même temps, quoi. Enfin,
c'est ça.
Ouais.
Ok. Oui, mais j'imagine que c'est souvent un peu comme ça que ça fonctionne. Je crois que c'est assez rare quand même, les compositions qui émergent à chaque fois d'un collectif. Est-ce que on peut vous entendre, où est-ce qu'on peut vous entendre, est-ce que vous avez déjà enregistré quelque chose, est-ce que c'est en projet?
Alors, on a sorti un album qui s'appelle Premier Printemps, qui est dispo sur toutes les plateformes, chez vos disquaires, et s'il n'y a pas de disquaire proche, à la FNAC. Il est sorti donc le 6 juin. C'est un 9 titres, voilà, 9 compositions. Donc ça, vous pouvez l'écouter partout. Et puis ensuite, on a des concerts à venir qui sont tous annoncés sur nos fameux réseaux sociaux dont on ne peut pas encore se passer. Okay. Peut-être qu'on va monter une newsletter pour contourner un peu ça, mais voilà. On a une petite dizaine de concerts à venir. On est très contents de ça. Qui d'ailleurs suit cette actualité de sortie de disque qui a eu lieu en juin.
Ok, très bien. J'imagine qu'une bonne partie de ces concerts vont avoir lieu cet été, peut-être ? Ou est-ce qu'ils vont filer jusqu'à 2026, peut-être ? Parce que l'émission sera, je peux vous le dire un peu off, mais l'émission, ouais, elle sera diffusée plutôt à la rentrée, à l'automne.
Non, en fait, je pense que c'est parce qu'on avait, forcément, quand on tente d'être programmé dans des festivals, des clubs, il faut une matière. Mm-hmm. Et l'album, il n'était pas tout à fait prêt pour être dans le bon timing pour cet été. Donc on joue un petit peu, mais c'est plutôt à l'automne, en fait, okay, qu'on va jouer en octobre, en novembre. Et puis on a déjà des dates prévues pour 2026.
Okay.
À Chambéry et Grenoble d'ailleurs, pas si loin d'ici, en avril.
Ouais. Ce serait intéressant de le dire aux auditeurs, auditrices. On va tranquillement terminer. Je vous remercie encore de vous être prêté au jeu. Je voulais vous demander, toujours la question décalée, si Ménalua, je vais arriver à le prononcer correctement une fois pour toutes, si Ménalua était un fruit, ce serait quoi pour vous ?
Alors là, je te laisse commencer.
Oh là. C'est difficile parce que j'ai forcément parlé d'un... C'est assez personnel, est-ce qu'on aurait là...
Oui, bah vas-y.
Ce serait quand même un fruit un peu exotique, je pense.
Fruit du Brésil.
Un fruit du Brésil, j'entends surtout, ouais.
Il y en a beaucoup.
Une mangue.
Mmh. Une mangue.
Une mangue, me concerne.
Mais il y avait aussi la possibilité de... Si Ménalua était une sauce.
Une quoi ?
Une sauce.
Ah, une sauce.
C'est mon accent, désolé.
J'ai vraiment pas compris. Ok. Une sauce, bah, je vais prendre la sauce du coup. Comme ça, il y aurait eu deux réponses.
C'est ça.
C'est tout de même très dur. Non, je vais prendre le fruit. Moi, j'aurais dit la grenade. Je sais pas pourquoi c'est le premier fruit qui m'est venu. Parce que ça peut aller avec le sucré et le salé. Et que finalement, on nous dit souvent que notre musique, elle est parfois un peu complexe, mais qu'en fait, elle est aussi accessible, enfin, qu'il y a un peu ce rapport-là. Et puis, on ne sait pas trop dire quel goût ça a. Enfin, c'est un peu quelque chose de... On ne peut pas forcément mettre un label dessus. Et c'est vrai que ça me parle aussi sur Ménalua, parce que là, j'ai vu que Cré avait appelé notre esthétique jazz élégant. Ça nous a fait un peu sourire, parce que j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Mais on a déjà lu Latin Jazz, l'autre jour on a eu Chanson de Jazz Atmosphérique. Enfin bref, c'est pareil, c'est une deuxième blague aussi qui revient. De voilà, pas trop savoir comment appeler ça. Et voilà, la grenade, c'est un fruit un peu inclassable. Voilà, je suis en roue libre.
C'est super.
Sur du,
non mais d'autant plus
du,
que dans la
blabla.
Grenade, il y a du fruit dans le fruit. C'est-à-dire qu'il y a quand même...
Oui,
une plein de fruits.
Ouais.
Ok, bah merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Et puis voilà, Ménalua qu'on va écouter, qu'on va avoir la chance d'écouter ce soir en direct sur la place de l'église de Cré ou à Radio Saint-Ferréol à 18h.
Merci.
Merci beaucoup. Bon, ça s'est bien passé, je pense, pour...